Hey, bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, lents traceurs et vifs pisteurs. Il est midi ou peut-être 17h et vous écoutez l'onde curieuse, pas facile à dire, de ce jeudi 11 juin, bienvenue. Aujourd'hui, on piste, on fouille, on gratte, on cherche, on interroge. Et à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, on vous a concocté une émission spéciale avec En Partie Magazine. Un reportage sur les traces de Néandertal. Et oui, on s'est rendu il y a quelque temps à l'abri du Maras, à Saint-Martin d'Ardèche, où Marie-Hélène Moncel, directrice de recherche au CNRS, archéologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de Néandertal, fouille avec son équipe depuis plus de 16 ans. Et elle nous parle du fruit de ses recherches, de ses questionnements. Elle dessine un portrait sensible de cette autre espèce humaine qu'est Néandertal. Mais avant, on part sur d'autres traces, celle du festival du même nom qui va se dérouler du 12 au 14 juin au château de Verchahut à Viviers et qui fait s'entrelacer justement préhistoire, création artistique, paysage et monde vivant à travers une programmation qui mêle entre autres spectacles, ateliers, expositions, rencontres, projections documentaires, performance, oulala, ça c'est foisonnant, c'est audacieux, inédit, et heureusement pour nous parler de ça, allez, en 5 à 7 minutes, il y a avec nous par téléphone Guillaume du collectif du Château. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sophie.
Alors d'abord, juste une première question, mais pourquoi avoir eu cette idée géniale d'entrelacer ce que j'ai dit, monde vivant, préhistoire, science?
Et ça s'inscrit plus largement déjà en fait toute une dynamique. Ça fait un an qu'il y a un projet de territoire qui mêle art et science autour de la préhistoire. Et donc il y a eu plein d'actions qui ont été menées avec les habitants des Gorges de Ardèche et de la Comme-Draga. Et dans ce cadre-là, nous, le collectif du Château de Verchahut, on avait envie de participer. En proposant un événement, justement, comme tu l'as très bien résumé, très foisonnant, mais qui va mêler art et science, découverte, rêve, le temps d'un week-end, quoi.
Et il y a une programmation vraiment incroyable. C'est pas galvaudé, là, comme mot. Je me disais, mais c'est dingue, mais comment ils ont fait? Donc, il y a beaucoup de regards croisés, de paroles, de discussions entre artistes, scientifiques, archéologues, etc. Il y a plusieurs moments comme ça.
Exactement, l'idée c'est, comme tu le dis, de croiser des regards de chercheurs, chercheuses au sens large, qui travaillent ou qui ont un lien avec le territoire sud-ardéchois, autour de la question de la trace. En fait, la ligne qu'on a prise, c'était de l'idée que les peintures rupestres, elles laissent personne insensible. Quand on voit les peintures de Chauvet, même à la reconstitution, et ben, il y a toujours tout de suite une connexion, ou en tout cas, c'est une porte d'entrée vers le rêve, vers les histoires qu'on se raconte, etc. Et on s'est dit aussi, ces peintures rupestres, c'est également un premier récit sur notre rapport au sauvage, qui a été inscrit il y a près de 40 000 ans et qui nous renvoie aujourd'hui, en tout cas qui nourrit nos réflexions face à la crise écologique. Et donc il y avait un angle intéressant à prendre. Et donc le festival, il est tourné autour de ces deux orientations, à la fois le lien à la trace, au sens du rapport à la préhistoire et du rapport au monde sauvage.
Le festival, il est parrainé par Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet, justement, naturalistes.
Exactement, qui est deux naturalistes qui ont fait un travail incroyable, notamment en Ardèche, avec la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche et bien d'autres choses autour d'Ibichaud, vraiment plein de choses. Et le festival, il a été aussi co-organisé avec la Cité de la Préhistoire de la Veine d'Orniac. Donc il y aura plein de scientifiques, autant archéologues, naturalistes également, mais aussi des artistes.
Des artistes parce que donc c'est un temps fort de vendredi soir à partir de 18h à Viviers jusque dimanche soir. C'est un temps fort qui est conçu aussi pour être vécu en famille. Il y a plein de spectacles aussi et plein d'ateliers.
Exactement, c'est vraiment pour les sapiens de tous âges. Autant il y a des ateliers pour les enfants, il y a un coin bibliothèque, il y a vraiment on a vraiment pensé aussi des choses pour les tout petits. Le site du château, il sera entièrement piéton, voilà, pour en rendre cet événement le plus familial possible. Et puis il y aura aussi voilà des causeries, des expositions, des spectacles, beaucoup de contes. Parce que c'était l'idée aussi de relier à la tradition orale, au mythe, au conte. Donc voilà, il y aura notamment toute une soirée le samedi soir avec deux spectacles de contes. Et voilà, il faut aller voir le programme détaillé parce que comme tu le dis, c'est difficile à résumer en quelques minutes parce que voilà, c'est très très foisonnant. Mais oui, il y en a pour toute la famille et voilà, je vous invite vraiment à regarder le programme.
Et ça excite l'imagination et c'est aussi, je pense, un petit peu l'une des pistes, l'un des fils rouges, justement, sur l'imaginaire. Il y a d'ailleurs des jeux d'invention de contes. Ça fait partie de l'un des ateliers qui seront proposés. En effet, j'invite tout le monde à aller voir sur votre site internet ou sur votre Facebook. Comment ça se passe? Quel est le mieux?
Exactement, bon, les deux. Les deux, c'est très bien. Il y a un événement qui a été créé sur Facebook et depuis notre site, on peut accéder à la billetterie en ligne et au programme détaillé.
Ok, Château de Verchahut, billetterie, tu fais bien. Quelles sont les conditions pratiques d'accès?
Oui. Je tiens vraiment à dire qu'on a essayé de rendre ce festival le plus accessible possible. Donc on a des tarifs à 10 euros par jour pour le samedi et le dimanche au château, mais à 15 euros les deux jours. Et puis on a quand même toute une partie également qui est gratuite avec la soirée du vendredi soir au Théâtre des Viviers et le samedi journée au Théâtre des Viviers, qui seront des espaces entièrement gratuits et libres d'accès.
Super, je ne vais pas dire que tout est dit, mais enfin, tout est un peu tracé. Merci beaucoup, Guillaume, du collectif du Château de Verchahut. Donc, le festival Trace, c'est du 12 au 14 juin à Viviers. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et puis pendant ces journées européennes de l'archéologie, bien sûr, les sites phares tels que la grotte Chauvet 2, le muséum de l'Ardèche à Balazuc proposent une programmation spéciale avec ateliers, mini-conférences, enquêtes et autres. Je vous invite à aller sur leurs sites respectifs. Un autre lieu emblématique de la préhistoire où il va se passer bien des choses pendant ce week-end, c'est bien sûr la cité de la préhistoire à la Veine d'Orniac, en écho à l'exposition temporaire « Plus belle la mort », enquête sur les rites funéraires de la préhistoire. Au programme de samedi, un atelier enquête où vous êtes amené à vous glisser dans la peau d'un archéologue pour résoudre le mystérieux méli-mélo d'une tombe collective néolithique. Ça, c'est de 14h à 17h30. Et puis ensuite, à 17h30, une conférence de l'archéologue Yaramila Tcheremissinov, spécialiste des pratiques funéraires néolithiques et membre du comité scientifique de l'exposition, avec donc cette conférence qui s'intitule « Y a-t-il des dolmens dans la plaine ?». À noter que dans le cadre de ces journées européennes de l'archéologie, l'entrée de la cité de la préhistoire et l'atelier sont gratuits, seul l'accès à la grotte reste payante. Et avant de partir sur le site néandertalien de l'abri du Maras à Saint-Martin d'Ardèche, avec Marie-Hélène Moncel, qui fouille depuis plus de 16 ans avec son équipe, on se met dans le sillon un peu de musique faite main par des sapiens qui baignent dans le monde de la poussière, peut-être parce qu'ils fouillent leurs propres tombes intimes, je ne sais pas. À la croisée du rap, du blues, du rock et de l'électro, on écoute Slow It Down des Mojo Sapiens, issu de leur album Empire of Dust, c'était en 2023 et c'est toujours sur la meilleure des radios, fréquence 7.
Squinting into the sun, seeing the source of light and where we all come. tongue. Spit it to the dustbin, hear the beat of the drum. It's been beating so hard, made my heart grow numb. Am I bound to succumb, a fight against the outcome? I'ma wind my way down this road of mine. I ain't impressed by much, I'm just pressed for time. Ain't got no time to waste, I'm messing around. Turn it back and I won't back down.
Slow it down.
Live my life on the road, I'm bound to be unbound.
Feet on the ground.
Ain't a choice of life or death, it's where I'll be found.
I'm short of cash for sure, wanna have to get some more. I was flush in my prime, my luck stopped down a dime. I'm driving over time, covered in rust and grime. And grease and dust, don't wanna kick up no fuss.
Wish I could just give up. So much disgust and distrust. Why's life so unjust? I'm feeling so damn rushed to get back on my bus. Got so much stuff to reconstruct, but I must be stuck. Cause I'm at home, man. Hands sick skin on my truck. Don't even touch the brake of the clutch. Won't downshift. Punch the gas line through the fast lane. I'm a run amok. The only thing that ever stops here is the fuck.
Slow it down.
Ain't got no time to waste.
Je m'appelle Marie-Hélène Moncel, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis rattachée au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille sur cette région, notamment pour comprendre comment les Néandertaliens ont occupé ces bas plateaux et les affluents qui arrivent jusqu'au Rhône.
Et là, où on se trouve? Est-ce que tu peux décrire un petit peu l'endroit où on est?
Voilà, alors là on est dans la fouille de l'abri du Maras. Alors, c'est un site sur lequel je travaille depuis maintenant plus de 15 ans. L'idée, c'est de dégager toutes les phases d'occupation de cet abri. Alors d'abord, ça a été une grotte qui s'est effondrée, et ensuite un abri sous roche. Et les Néandertaliens sont revenus pendant très longtemps, puisqu'on a des âges à la base de 250 000 ans et jusqu'à 40 000 ans. Donc ils sont venus régulièrement, des occupations saisonnières. Et notre objectif, c'est de comprendre toutes les activités et ce qu'ils ont chassé, les animaux qu'ils ont chassés, comment ils ont taillé leurs outils, où ils sont allés chercher leurs matières premières, en particulier le silex. Il y en a beaucoup sur les plateaux autour. Et donc ici, on est en face de la coupe, hein, qui a plus de 3 mètres d'épaisseur, qui résume en fait toute l'histoire du site. Puisqu'on a des lits de blocs, des lits de cailloutis, des lits de limon, qui correspondent à l'accumulation progressive dans la cavité de sédiments et de l'effondrement progressif de la cavité. Et toute cette séquence a enregistré donc des passages réguliers de ces Néandertaliens.
Donc là, en fait, on a sous les yeux, en fait, c'est comme si en s'enfonçant dans cette coupe, on descendait dans l'histoire, c'est vraiment
ça ? Tout à fait, on a 250 000 ans d'histoire, en quelque sorte. Enfin, alors, je vais résumer, puisque le sommet, on est à peu près à 40 000, et à la base, 250 000, on a plus de 200 000 ans d'enregistrement de sédiments qui se sont accumulés dans la cavité et dans lequel on a plein de phases d'occupation. C'est-à-dire les hommes connaissaient ce site, ils revenaient parce qu'il est bien placé, il est à proximité de la vallée de l'Ardèche, des plateaux, on pouvait trouver du gibier, des matières premières. Et donc ils connaissaient, il y avait sans doute une transmission de génération en génération, ils revenaient régulièrement. Alors on ne peut pas savoir exactement à quel rythme, hein, mais on sait à quelle saison. Grâce à l'étude des animaux, on arrive à savoir qu'ils venaient plutôt, par exemple, en automne pour chasser le renne, ou ils venaient plutôt au printemps ou en été pour chasser d'autres espèces. Par les dents des animaux qu'ils ont chassés, on arrive à déterminer la période.
Vous savez pourquoi ils venaient à ces deux périodes ? Est-ce que c'était en fonction du gibier qu'il y avait ou pour d'autres raisons ?
Alors probablement, oui. Les Néandertaliens sont des grands carnivores, des grands chasseurs, donc ils consomment beaucoup d'animaux, d'herbivores. Alors par exemple, pour les rennes, on sait qu'ils venaient en automne, probablement parce que les rennes remontaient vers le massif central pendant l'été, ils cherchent la fraîcheur. Et donc les Néandertaliens savaient très bien qu'ils passaient probablement l'Ardèche venant de la vallée du Rhône, ils les attendaient pour les chasser. Alors que par exemple l'occupation plus ancienne autour de 100 000 ans, où ils chassent un peu plus d'animaux diversifiés, par exemple ils chassent des chevaux, des bisons, il faut imaginer qu'il y avait des bisons dans la vallée du Rhône, ils chassent aussi du daim, des sangliers, là ils restent plus longtemps, probablement à ce moment de l'année où ils viennent, il y a une plus grande diversité d'espèces, et donc du coup ils chassent plus d'espèces différentes autour du site, parce qu'ils restent plus longtemps que ceux qui vont chasser le renne, où ils viennent sans doute ponctuellement, parce qu'ils savent que les rennes passent, traverse l'Ardèche à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a des grandes phases climatiques différentes ? Parce que là, on est sur un temps... est-ce qu'on peut imaginer une unité de Néandertal ou est-ce que c'est une même espèce, mais est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre le Néandertal d'il y a 250 000 ans et du Néandertal d'il y a 40 000 ans ?
Oui, oui, tout à fait. Déjà, ce site, il faut s'imaginer qu'il y a 3 interglaciaires qui sont enregistrés. Nous, actuellement, on vit dans un interglaciaire. Il y a eu des successions de cycles de périodes très froides et de périodes plus tempérées au cours du Quaternaire, ce qu'on appelle. Et ici, dans ce site, de manière exceptionnelle, on a 3 phases tempérées qui sont enregistrées. Une à 250 000, une autour de 100 000 et une autour de 40-50 000. Donc déjà, c'est exceptionnel. Et ça nous permet de comparer entre des Néandertaliens plus anciens, à 250 000, et des Néandertaliens plus récents. Et effectivement, on voit des différences. Et on voit aussi des différences dans la région, avec d'autres sites néandertaliens, puisque ce n'est pas le seul, où on voit des changements culturels de façon de fabriquer des outils, de façon de gérer le territoire, d'aller chercher des matériaux. Et on voit vraiment une histoire qui se modifie au cours du temps. Le Néandertal, ce n'est pas uniforme, et en particulier dans la région. Et ce qui est intéressant dans la région, c'est en fait on peut comparer à une échelle micro-régionale la variabilité de ces comportements néandertaliens et comment ils ont géré ce petit espace, qui est un espace assez idéal puisque c'est des bas plateaux. Il y a des vallées qui sont des affluents du Rhône. Donc on a tout ce qu'il faut pour vivre dans de bonnes conditions. Et c'est très intéressant de voir la variabilité et les stratégies d'adaptation de ces Néandertaliens dans ce petit espace et la flexibilité de leur comportement en fonction s'il fait froid ou s'il fait plus tempéré.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu de cette variabilité, quelque chose un peu de marquant ? Qu'on essaie de se représenter.
Oui, voilà. Par exemple, dans la couche de 100 000 ans, on sait qu'il a un comportement un peu particulier. Par exemple, il a beaucoup plus d'outils retouchés. Il a ce qu'on appelle des grands racloirs. C'est des grands éclats sur lesquels il va retoucher abondamment les bords. Ça caractérise un comportement très particulier qu'on appelle le kina, qu'on a appelé le kina rhodanien. Alors que dans la couche plus récente, comme ils viennent beaucoup moins longtemps, plus ponctuellement pour chasser le renne, ils vont utiliser une autre méthode de fabrication des objets, qu'on appelle la méthode Levallois, parce qu'en fait, ils ont besoin d'éclats tranchants qui vont leur permettre de traiter les carcasses. Donc en fait, on a à la fois il y a la variabilité des stratégies, mais en même temps qui est adaptée aux besoins de l'activité. S'ils ont besoin de beaucoup d'objets coupants, ils vont choisir une méthode de débitage, ce qu'on appelle. S'ils ont besoin d'autres outils plus diversifiés, parce qu'ils vont avoir à traiter les peaux, ils vont avoir à travailler du bois, etc., il va y avoir une diversité de choix techniques différents. Donc il faut que nous, quand on travaille sur ces Néandertaliens, on fasse la part entre l'activité, c'est-à-dire donc bien comprendre quelle activité s'est passée dans le site, et les choix techniques qu'ils vont choisir au milieu d'une gamme de leurs connaissances, parce qu'ils ont une gamme très large de capacités à fabriquer des objets, et ils vont sélectionner dedans ce qui correspond aux besoins de l'activité. C'est pour ça que quand on fouille, on note exactement tous les objets dans leur position, en 3 dimensions, X, Y, Z, parce qu'après on fait des répartitions spatiales, et quand on va déterminer précisément chaque objet, chaque fragment d'os est étudié, chaque fragment de silex, on va essayer de reconstituer justement l'activité. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ce site, à ce moment précis, dans quel contexte climatique et pourquoi ?
C'est une enquête de dingue.
C'est une enquête policière. Moi, je dis toujours, on fait parler en fait les indices dont on dispose, surtout qu'on dispose que de ce qui s'est préservé, c'est-à-dire les outils en pierre. Or, on sait que Néandertal fabriquait beaucoup d'outils en bois. Ça, on le sait par les traces d'utilisation sur les tranchants des objets, parce qu'il y a des spécialistes qui peuvent voir au microscope à quoi a servi un outil en silex. Et on sait qu'il y a une énorme partie d'objets qui ont été utilisés à fabriquer du bois. Ce qui est assez logique, hein, le bois les entourait. Par exemple, dans ce site, on sait à certains moments, il y a du pain. Ils récupèrent du pain pour alimenter leur foyer. Donc, on fabrique sans doute beaucoup, beaucoup d'objets en bois. Et donc, on ne peut réfléchir en fait que ce qui s'est préservé. Et ce qu'une infime partie, il y a une partie énorme qui est le monde, ce que j'appelle de l'invisible, qui a disparu et qu'on essaye de faire parler au travers de ce qui s'est conservé.
Au départ, quelles sont les grandes questions avec lesquelles vous êtes venu ici sur le site? Qu'est-ce qui a guidé vos recherches? C'était quoi les questions de départ?
Alors les questions de départ, en fait ce site il est connu depuis très longtemps, puisque Léopold Chiron au 19e en parle déjà. Ensuite il a été un peu oublié, il a servi de bergerie, mais il y a quand même un préhistorien local, René Gilles, qui travaillait vraiment très très bien, qui habitait à Saint-Marcel, qui a fouillé la surface en fait, parce qu'on savait en nettoyant, quand ceux qui occupaient la bergerie en nettoyant, voyaient bien qu'il y avait du silex. Et il a mis en évidence donc que c'était un site néandertalien et avec des types d'objets qui étaient très intéressants techniquement pour moi, qu'on appelle donc des lames levallois. Alors c'est un terme un peu technique, mais les hommes venaient dans ce site et ils ont produit en abondance ces objets. Et après, donc, un autre préhistorien, Jean Combier, avait fait un petit sondage en avant et avait trouvé qu'il y avait d'autres couches plus anciennes que la couche supérieure. Et après, le site avait été oublié. J'avais vu le matériel qui avait été déposé dans le musée d'Orniac et je me disais quand même, ça valait le coup d'aller essayer de voir s'il n'y avait pas des choses encore plus anciennes en avant du site. Puisqu'en fait, le substrat, hein, le calcaire, est en escalier et plus on descend ces escaliers, plus on atteint des couches anciennes. Et donc, en faisant un sondage, je suis tombée sur des couches plus anciennes. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'élargir, faire une grande surface de fouille pour avoir le maximum d'informations sur les activités.
Là, en fait, vous avez fait un bond dans le temps.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a quand même la plupart des sites néandertaliens de la région sont plutôt récents, ce qu'on appelle nous récents, c'est-à-dire on va dire entre 40 et 60 000. Il n'y a quand même pas beaucoup de sites assez anciens, comme avec des niveaux de 250 000. Et donc là, vraiment, ça nous permet de voir au cours du temps comment les néandertaliens vont choisir leur méthode de débitage, vont modifier peut-être leurs activités en fonction des conditions climatiques. Donc c'est vraiment une histoire au cours du temps qui nous permet de voyager entre 250 000 et 40 000 et de voir toute la flexibilité de ces hommes dans un espace bien réduit.
Et aujourd'hui, donc, ça fait presque 16 ans que vous fouillez ici. Est-ce qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si on peut parler de conclusion, mais quels sont les éléments les éléments principaux que vous pouvez retirer?
Alors d'abord, on a encore plein de choses à faire sur ce site, hein, parce que c'est un travail de fourmi, puisque chaque micro-fragment, et on en a des milliers, est examiné, puisque c'est statistiquement, en fait, ça nous donne des informations. On a déjà donc plein d'informations sur les durées d'occupation, sur les activités, mais on a encore des objets mystérieux. Par exemple, on a trouvé des fragments de manganèse, des fragments d'oxyde de fer qui ne viennent pas de la région. Donc ça veut dire qu'ils ont transporté avec eux des matériaux. Et notamment l'oxyde de fer, il y a des petits éclats dessus et on pense que c'est un briquet, c'est-à-dire pour alimenter le feu, donc ce qui est très rare. Il a été trouvé dans la couche de 250 000 ans. Donc on a encore plein d'informations. On a même trouvé aussi un outil sur os dans le niveau de 100 000 ans qui a montré par le spécialiste qu'il a servi sans doute à travailler les peaux. Donc, parce que Néandertal, en fait, utilisait très peu l'os comme outil. Il utilisait le bois, la pierre, mais très peu l'os. Et de temps en temps, par miracle, on arrive à trouver un objet. Donc là, on a réussi à trouver cet objet. Donc on a encore tellement de choses à faire parler pour comprendre toutes les activités et voir comment il occupait l'espace. Ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, quand un groupe est petit, il ne va pas forcément occuper tout un espace d'un site. Mais quand un groupe est plus grand, qui reste plus longtemps, il va structurer son espace avec, par exemple, des zones où il va fabriquer des outils, des zones où il traite les carcasses. Et là, c'est notre objectif de comparer les niveaux entre eux, justement, comment ils ont géré l'intérieur de leur espace, que ce soit la cavité ou l'abri sous roche.
Justement, comment ils se répartissaient là dans cet espace et à quelle période?
Voilà, alors on a les informations les plus précises qu'on a, c'est dans le niveau supérieur, de 40 à 50 000 ans. On sait que c'était des petits groupes qui restaient dans des petites parties de l'abri. Ils ne s'étalaient pas sur toute l'abri. Et parce qu'on a retrouvé, par exemple, on a pu faire des remontages de ce qu'ils avaient taillé et on a vu que ça restait dans des zones très limitées. Donc probablement des petits groupes peut-être de quelques individus qui savaient qu'il y avait des rennes qui passaient par là et qui venaient les chasser et qui remportaient avec eux de la viande, peut-être pour la fumer, pour la consommer, etc. Alors que dans le niveau là, qu'on fouille depuis maintenant presque 10 ans, le niveau autour de 100 000 ans, on commence à avoir des informations, mais on n'en a pas assez, mais probablement on va avoir des spots d'activité, c'est-à-dire des endroits où il y aura des concentrations d'outils, où ils les fabriquent, et d'autres endroits où ils vont déplacer certains des outils pour, par exemple, travailler les pots, etc. Mais là, c'est encore un peu... on n'a pas encore toutes les réponses, parce qu'on a, on a encore besoin d'accumuler énormément d'informations sur tout ce matériel pour le faire parler.
Là, c'est votre dernière année ?
Alors voilà, c'est un peu triste, hein, parce que 16 ans de sa vie, mais bon, le site est toujours là, hein, on le protège, parce que le but, c'est de garder la coupe, de pouvoir revenir faire des prélèvements, que d'autres générations futures, avec d'autres méthodes, d'autres questionnements, puissent venir travailler sur ce site. Mais non, le terrain peut-être s'arrête cette année, mais on continue, on a énormément encore d'années de travail devant nous pour faire parler tout ce qu'on a sorti. Parce que c'est un mois de fouille, ça représente des années de travail après, parce que c'est des milliers d'objets. Et donc, chaque spécialiste, il y a une trentaine de spécialistes différents qui travaillent sur le site, chaque spécialiste doit regarder chaque fragment, chaque objet, chaque petit morceau. Les Néandertaliens adoraient manger la moelle, donc ils explosaient les os. Donc on a des milliers de fragments qui nous parlent, même si ça peut sembler des bouts d'os quelconques. Et donc, ça nous donne énormément d'informations, comment ils fracturaient les os, comment ils s'y prenaient selon la taille de l'espèce. Par exemple, on sait que les petits herbivores, ils les amenaient entiers dans le site. Un renne, c'est petit pour eux, ils les amenaient entiers pour les traiter. Alors que les bisons et les chevaux, ils amenaient des portions. Ils amenaient les viandes, là où il y avait les cuisseaux, hein, où il y avait la viande. Ils amenaient pas tout le squelette. Et ça, on arrive à le reconstituer par l'examen des milliers de petits fragments. Ils amenaient des mandibules, on ne sait pas trop pourquoi, parce que dans une mandibule, il n'y a pas grand-chose à manger, mais peut-être qu'ils amenaient la tête parce qu'il y a le cerveau. Ça, on sait qu'ils explosaient le crâne pour le cerveau. Donc, ça nous amène aussi beaucoup d'informations dans la manière dont ils traitent les espèces, là où ils vont les chasser, et qu'est-ce qu'ils apportent dans le site pour continuer à les traiter sur place. Donc, il y a toute une gestion aussi de l'espace. Ça nous apporte aussi des informations où ils vont chercher le silex, comment ils le rapportent, sous quelle forme. Par exemple, on sait qu'ils commencent à préparer à partir des nodules de silex une partie sur place, puis ils amènent des choses déjà préfabriquées. Ils peuvent amener aussi avec eux, moi, ce que j'appelle la boîte à outils, c'est-à-dire des objets qui viennent d'un périmètre beaucoup plus large, parce que le spécialiste peut déterminer d'où vient le silex. Et en fait, c'est des sortes d'objets qu'ils gardent avec eux, qu'ils transportent, puis ensuite qu'ils abandonnent, ils n'en ont plus besoin, hein, parce que le rapport à l'outil n'est pas du tout le nôtre. Il faut considérer que l'objet, c'est comme le couteau suisse pour eux, c'est-à-dire tout sert à tout. Nous, on a tendance à avoir des objets très spécialisés, mais pas eux. Et donc, ça peut nous sembler étrange de dire « mince, ils ont abandonné ce magnifique objet ici, pourquoi, etc. » Mais parce que pour eux, là où ils vont aller, en 3 secondes, ils vont le refaire. Parce que là où ils vont aller, ils n'en ont pas besoin. Enfin, voilà, le rapport à l'objet, le rapport à l'espace, le rapport à la circulation n'est pas le nôtre. Hein, je dis toujours, en fait, qu'on travaille sur un monde extraterrestre. Parce que c'est un individu qui a disparu, qui n'avait pas le même cerveau que nous. Donc, qui n'avait pas le même rapport au monde. Et l'objectif, c'est de comprendre la cohérence de ce monde, en fait, avec notre cerveau d'homo sapiens du 21e siècle, avec notre culture, et donc de comprendre, eux, comment ils fonctionnaient.
Justement, ça, c'est passionnant. Comment on fait, justement, pour essayer de ne pas projeter ses propres conceptions ?
Alors, c'est difficile. Il faut essayer d'être très factuel, c'est-à-dire d'accumuler toutes les données dont on dispose, et à partir de là, de proposer des hypothèses. Voilà, à partir des données dont on dispose, voilà les hypothèses possibles. Peut-être qu'un jour, une hypothèse sera plus retenue qu'une autre en fonction de nouvelles découvertes, ou peut-être qu'on restera un certain nombre d'hypothèses. Il faut éviter aussi d'aller trop dans de la préhistoire fiction, un peu entre guillemets, parce qu'en fait, on ne dispose que d'une petite partie de ce qu'ils ont abandonné. Tout en sachant aussi que le site que l'on fouille, c'est qu'une petite partie du site, une partie a disparu par l'érosion. Donc on est dans une fraction de ce qu'ils ont abandonné de leur poubelle, hein, parce qu'en fait, on fouille leur poubelle. Et pourquoi ont-ils abandonné ça à ce moment-là ? Pourquoi n'ont-ils pas abandonné ça, etc. Donc, il faut aussi comprendre la logique de la poubelle.
Ce serait quoi un peu ton portrait sensible de Néandertal ?
Je pense que c'était un individu qui connaissait parfaitement son environnement, qui était parfaitement adapté, qui trouvait toutes les stratégies et la flexibilité dont il avait besoin selon les périodes climatiques, puisque quand c'est un monde tempéré, c'est pas du tout pareil qu'un monde froid. La végétation empêche de voir loin, alors que quand c'est steppique, on voit très loin. Ils se sont adaptés à différentes espèces animales pour les chasser. Ils ont toujours trouvé de quoi comme matière première. Ils avaient donc une capacité d'adaptation assez extraordinaire. Ils ont quand même vécu plus de 300 000 ans, puisqu'on sait à peu près quand démarrent les premiers traits néandertaliens. Nous, notre histoire en tant qu'homme moderne, elle n'est pas aussi longue. Et donc, c'est un autre univers que nous, c'est une autre logique, mais ils ont toujours trouvé des stratégies pour vivre dans les moyennes montagnes, pour vivre en plaine, pour vivre au bord des côtes, donc pour trouver toutes les solutions pour s'adapter aux variations climatiques.
Pourquoi, à un moment donné, ne se sont-ils plus adaptés ? Et ont-ils disparu ?
Alors là, c'est une question qui est pour l'instant insoluble. De toute manière, tout événement n'est jamais unifactoriel. En préhistoire, c'est multifactoriel. Il y a probablement une conjonction d'événements. On sait par exemple, dans la période autour de 30-40 000 où ils disparaissent, il y a des fluctuations climatiques extrêmement rapides, donc qui peut aussi fragiliser des groupes humains. On sait aussi par les données génétiques que probablement il y a une baisse de population, donc il y a un isolement de groupe qui fait que la reproduction est beaucoup plus difficile et donc l'isolement génétique peut conduire aussi tout doucement à la disparition de certains groupes. Il y a bien sûr aussi l'arrivée des hommes modernes en Europe. Alors même si on sait que la densité est très très faible, on ne sait pas par exemple partout s'ils se sont rencontrés. C'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés. On a des preuves de métissage, certes, mais ça ne veut pas dire que c'était le conflit, l'affrontement permanent entre les deux, entre deux mondes complètement différents. Donc sans doute, probablement, une série d'événements qui fait que tout doucement, ils disparaissent. Ils ne disparaissent pas brutalement, ils mettent vraiment des dizaines de milliers d'années à tout doucement disparaître. Et donc voilà, c'est le remplacement, comme dans toute vie sur Terre, il y a des espèces qui à un moment disparaissent pour des raisons multifactorielles et puis qui sont remplacées par d'autres.
S'il y avait une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse ?
Je ne sais pas. J'ai déjà eu beaucoup de réponses par mon travail. Ça nous permet d'aller loin dans leur logique. Oui, une réponse, une question. C'est un autre univers mental. Donc, pour moi, j'ai toujours peur d'aller trop loin et de vouloir interpréter des choses avec mon cerveau d'homme du 20e siècle, 21e siècle. Alors que cet individu avait un autre cerveau, une autre morphologie du cerveau, donc une autre façon de penser. Donc c'est toujours très très frustrant en quelque sorte de se dire ben, peut-être en fait on passe à côté de compréhension de choses, on interprète d'une certaine manière, mais peut-être qu'en fait notre interprétation est erronée parce qu'on est face à un individu qui n'existe plus et qui avait un autre cerveau et donc une autre façon d'appréhender les choses, l'espace, les objets, la mobilité, la circulation, le type d'habitat qui les intéressait, même si on arrive de plus en plus à voir ce qui les intéressait. Ils ne choisissent pas par hasard n'importe quel site, on sait où ils vont, enfin, il y a une logique dans leur circulation, dans leur mobilité, mais on est quand même loin de comprendre certains critères de choix qui nous dépassent et qui peuvent être également pas uniquement alimentaires. Parce qu'en fait, on ne travaille que sur la partie alimentaire. Ce qu'ils ont raisé, c'est les poubelles. Mais rien ne nous dit que certains choix de sites ne sont pas dus à des critères culturels qui fait que pour des raisons X, on va choisir plutôt ce site-là plutôt qu'un autre parce que pour des raisons liées à de la métaphysique, à des croyances, à d'autres choses qui nous dépassent et dont on ignorera toujours tout. Et là, ça, c'est très, très un peu frustrant de certaines manières, parce qu'on reste toujours dans l'alimentaire, en fait.
Après, peut-être avec des sites comme Bruniquel qui ouvrent.
Oui, tout à fait. On sait, du reste, Saint-Marcel, qui est tout près d'ici, on avait fouillé une bauge à ours très loin de l'entrée avec des collègues à 300 mètres de l'entrée dans le noir complet, où on a la preuve que les hommes sont venus probablement récupérer de la peau d'ours des cavernes morts en hibernation. On a trouvé quelques silex. Donc le Néandertal est capable de rentrer dans les profondeurs des ténèbres. Bruniquel, bien sûr, le prouve encore plus. On avait toujours dit que c'était que l'homme moderne qui allait dans les ténèbres. En fait, Néandertal est capable, il a le feu, il peut très bien y aller. Mais en fait, il ne vit pas quand même. Il ne va pas rester longtemps. C'est sans doute pour l'instant très ponctuel, mais peut-être parce qu'on n'a pas trouvé les sites aussi. Donc là, on rentre dans le monde de la métaphysique, de la croyance, des raisons autres qu'alimentaires et qui nous dépassent un peu. Et plus qu'un peu.
Et merci à tous et à toutes, auditrices, auditeurs, d'être toujours à l'écoute de l'Onde Curieuse sur Fréquence 7. Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisque à 15h, vous trouverez vos événements grâce au Telex. Je rappelle le numéro qu'il faut appeler pour laisser un message, le message de votre événement, le 04 75 93 30 25. Il passe tous les jours à 9h et 15h. À 17h, vous retrouvez la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, la collective. Et à 20h,
la tête dans le sillon. Ciao.